Éclat de livre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat de livre, l'émission pour croquer dans la littérature jeunesse sur les ondes de Radio G. Un dimanche sur deux à 17h, nous évoquons autour d'un thème des livres pour enfants, petits et grands. Que diriez-vous d'une balade en forêt? Une promenade sous les arbres, à l'écoute du chant des oiseaux ou à l'affût des trésors de l'automne? Bocs de marron, feuilles dorées ou belles flaques pour nettoyer ses bottes flambant neuves? Pour accompagner votre sortie au grand air, je vous propose une sélection littéraire légère, mais qui a du caractère. Au programme aujourd'hui, un roman d'aventure palpitant, plein de hêtre et de charme. Un récit profond et généreux comme l'ombre d'un grand chêne, et une bande dessinée qui alterne forêt sombre et clairière lumineuse. Et pour lancer notre joyeuse déambulation, un album qui enchante et chante comme le vent dans les branches des châtaigniers.
Bulle et Bob dans la forêt, un livre disque de Nathalie Tual et Gilles Beloin, illustré par Ilia Green, publié par Didier Jeunesse.
Sur la couverture de l'album, deux enfants nous observent, petits lutins qui jouent à cache-cache derrière les troncs d'une forêt luxuriante. Voici Bulle, costumé comme le chaperon rouge, et son frère Bob, qui prend un air mystérieux. Un écureuil et un lapin se sont approchés.
Prenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait.
Bulle et Bob habitent tout près d'une forêt, une petite, mais c'est quand même une forêt. Ils l'appellent
la forêt sans loup,
parce qu'il n'y a pas de loup, c'est tout. Ils la connaissent comme leur poche.
T'as mis des bottes, Bulle ?
Bah oui, il y a de la gadoue dans la forêt. T'as pris le panier pour les champignons, Bob ?
Quoi ?
T'as pris le panier pour les champignons ?
Je le cherche, je suis dans le placard. Ça y est, je l'ai !
Et les voilà partis.
Équipés d'un panier, d'une boussole et d'un bâton solide, les deux enfants partent à la découverte de cette forêt qu'ils connaissent si bien. L'expédition révèle bien des surprises. Des champignons bien cachés sous les feuilles, la silhouette furtive d'animaux farouches, quelques ricochets dans la rivière et peut-être...
Un écureuil.
Écureuil ou n'écureuil ? Telle est la question. Voici un album idéal pour s'émerveiller avec les plus jeunes d'une promenade en forêt, où chaque sentier est une promesse d'aventure. Les illustrations colorées de Ilia Green apportent de la douceur à chaque page et permettent à l'enfant d'apprivoiser une peur passagère, ce qu'il fait parfois sombre entre les grands arbres. Un livre à lire en famille, mais aussi à écouter avec délice. Le CD propose 9 chansons pleines d'entrain et d'humour de Nathalie Tual, délicatement arrangées par Gilles Beloin. Écoutez plutôt.
Dans la forêt, ça danse et ça joue. Dans la forêt, les animaux font les fous. Promenons-nous, promenons-nous. Il n'est pas là, le loup. Promenons-nous, promenons-nous. Il n'est pas là, le loup. Les écureuils jouent à cache-cache. La chouette fait de l'œil au hibou. Les biches dansent le Madison. Elles chantent au tempo du coucou. Promenons-nous, promenons-nous. Il n'est pas là, le loup. Promenons-nous, promenons-nous. Il n'est pas là, le loup.
Je vais te dire un secret. Quand j'entends un oiseau chanter, je me dis dans mon cœur que c'est la voix.
Un autre qui aime entendre les oiseaux chanter dans la forêt, c'est...
L'homme qui plantait des arbres, de Jean Giono, disponible chez Folio Junior.
Qu'est-ce qu'il plante comme arbre ? Tu vas voir.
Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur les hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages.
Nous sommes en 1913. Le narrateur, c'est-à-dire celui qui dit « je » dans le livre, raconte ensuite sa rencontre avec un berger peu bavard, mais généreux, qui l'accueille pour quelques jours. Celui-ci se livre à une occupation étrange.
Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle la propriété des gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses sanglants avec un soin extrême.
Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur ces 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qui était impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant.
C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses.
Cette rencontre est si marquante pour le narrateur qu'après la guerre, il décide de retourner voir Elzéar Bouffier. Une surprise l'attend.
Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole et, comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction.
Il avait suivi son idée et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun.
La création avait l'air, d'ailleurs, de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens.
Ainsi, à lui tout seul, petit à petit, ce berger a contribué à la reforestation des Alpes de Haute-Provence. Et avec les arbres sont revenus les oiseaux, l'eau des ruisseaux et des fontaines, et les hommes qui ont retrouvé un environnement propice où s'installer. L'histoire est un conte, une fable simple et puissante qui nous encourage à prendre soin de la nature. On peut tous s'imaginer comme ce berger, à planter des arbres un à un pour entendre le vent souffler dans les branches. Le vent l'emportera de Noir Désir.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres. Trajectoire de la course à l'instantané, le vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera, la caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais.
Continue.
Un que le vent pourrait emporter s'il soufflait trop fort, c'est Toby, qui ne mesure 1,5 mm. C'est bien petit, non?
Toby qui? Toby Lolness, un roman en 2 tomes de Timothée de Fombelle, disponible chez Folio Junior.
Toby, comme tous les membres de son peuple, habite dans l'arbre, avec un grand A. Pour des êtres si petits, un arbre constitue l'univers dans son ensemble. Dès les premières lignes, on découvre Toby en fuite, avec à ses trousses des poursuivants féroces. Où va-t-il? Pourquoi s'échappe-t-il? Revenons en arrière pour planter le décor.
Dans l'arbre, les voyages se vivaient toujours comme des aventures. On circulait de branche en branche, à pied, sur les chemins très peu tracés, au risque de s'égarer sur des voies en impasse ou glisser dans les pentes. À l'automne, il fallait éviter de traverser les feuilles, ces grands plateaux bruns qui, en tombant, risquaient d'emporter les voyageurs vers l'inconnu.
Bien sûr, l'augmentation de la population de l'arbre obligeait certaines familles à émigrer vers des régions lointaines. Mais c'était une décision collective, un mouvement familial. Un clan choisissait de s'approprier des branches nouvelles et partait pour les colonies inférieures. Elles se trouvaient plus à l'intérieur de l'arbre, dans des rameaux ombragés.
Cependant, personne n'allait jusqu'aux basses branches, cette contrée plus lointaine encore, tout en bas. Personne, du moins, ne s'y rendait volontairement.
Les basses branches, c'est là que Toby et sa famille vont s'exiler pendant quelques années. Il faut dire que le père de Toby, Sim Lolness, est un professeur aussi brillant qu'incompris. C'est aussi un homme intègre, qui finit par se rendre compte que son peuple, à force d'exploiter l'arbre à outrance, est en train de scier la branche sur laquelle il habite.
Le père de Toby défendait l'idée folle que l'arbre grandissait. C'était un thème les plus méconnus, la vraie passion du professeur. Les savants se disputaient à ce sujet. L'arbre change-t-il? Est-il éternel? Quelles sont ses origines? Y aura-t-il une fin du monde? Et surtout, existe-t-il une vie en dehors de l'arbre? Ces questions provoquaient un grand débat, sur lequel Sim Lolness ne partageait pas les idées à la mode.
Son livre sur les origines avait été plutôt mal accueilli. Il y racontait l'histoire de l'arbre comme celle d'un être vivant. Il disait que les feuilles n'étaient pas des plantes indépendantes, mais qu'elles représentaient les extrémités d'une immense force de vie. Ce qui avait choqué les lecteurs, c'était que ce livre sur les origines parlait en fait de l'avenir.
Si l'arbre était vivant comme une forêt de mousse, il était terriblement fragile. Il fallait prendre soin de cet être qui leur ouvrait les bras.
Toby Lolness est un formidable roman d'aventure dans l'infiniment petit. Ce concentré d'imaginaire se dévore à partir de 10 ans, tant l'écriture de Timothée de Fombel est fluide et le suspense bien dosé. La construction en flashbacks successifs y est aussi pour beaucoup. Dès les premières pages, le lecteur est happé par le périple palpitant d'un héros aussi intrépide que curieux. Et les plus grands pourront découvrir dans ce roman une dénonciation convaincante, par le biais de ce monde imaginaire, de la surexploitation des ressources naturelles par l'homme.
Benabar, la forêt.
Je faisais ce rêve, enfant. Je m'éloignais de la clairière pour pénétrer ce bois devant. Plus j'avançais, moins j'y voyais clair. Je m'égarais seul dans le noir, m'enfonçant, je devinais. Le rêve avait viré cauchemar, puisque personne, personne ne me cherchait. Dans cette forêt, j'y suis encore. De cette forêt, est-ce qu'on en sort? Guet-apens sombre, végétale, obscure et verte, cathédrale, écrasante et sale. Dans cette forêt, il y a des gens qui progressent comme moi difficilement. Dans ce tricot de branches savantes, de ronces, de racines.
Le rêve avait viré cauchemar, chante Benabar. C'est probablement ce que ressentent Nelly et Eva, les deux personnages d'un conte d'anticipation qui se passe, lui aussi,
dans la forêt, une bande dessinée de Lomig, d'après le roman de Jean Hoogland, édité chez Sarbacane.
Je le précise tout de suite, cette BD s'adresse à un public averti, grands ados ou jeunes adultes. Mais revenons à Nell et Eva. Ces deux sœurs vivent avec leurs parents dans une maison en plein milieu d'une immense forêt, en Californie. Et comme tous les enfants,
Elles s'inventent de drôles d'univers et jouent à se faire peur. Leur terrain de jeu favori, c'est la cavité d'une souche de séquoia géant qui leur sert de refuge.
Si on disait qu'on était des exploratrices? Mais oui, Eva et Nell, les exploratrices. On était perdus et on était obligés de se débrouiller toutes seules pour survivre dans la forêt. Et il y avait plein de bêtes dangereuses qui nous attaquaient. Des lynx, des ours et même des crotales. Heureusement, on avait trouvé cet arbre et c'était devenu notre nouvelle maison. Mais on n'avait plus rien à manger et on commençait à avoir faim. Alors, on décidait de chasser les cerfs. Et là, j'avais vu des traces près de la rivière. Et on allait les suivre. Tu viens? D'accord, allons-y.
Quelques années plus tard, à l'adolescence, Eva se rêve danseuse étoile. Nell étudie dur pour intégrer une université prestigieuse. Leurs projets d'avenir sont brutalement remis en question par la mort de leurs parents. Au même moment, le monde est entraîné dans une mystérieuse apocalypse qui mêle effondrement de l'économie, catastrophe écologique et soubresaut politique. Dans leur maison entourée de bois profonds, les deux sœurs sont coupées de tout pour cause de pénurie d'énergie. En attendant que leur vie reprenne comme avant, elles sont tout l'une pour l'autre, se disputent et se réconcilient, s'entraident et se protègent. Rares sont les personnes qu'elles croisent encore dans cet univers comme revenues à l'état de nature originelle. Autrefois terrain de leur jeu d'enfant, la forêt leur apparaît dorénavant menaçante et étrangère, comme le note Nelly dans son journal intime.
Il n'y a plus aucun endroit où nous nous sentions en sécurité. Nous avons pris conscience à quel point nous sommes exposés et vulnérables. Nous sommes prisonnières de cette immense forêt. Elle a déjà tué notre père, et c'est d'elle que viendra l'homme, ou les hommes, qui nous tueront à notre tour. Ce n'est plus qu'une question de temps.
Comme pour souligner ce triste constat, l'enchaînement des cases de la bande dessinée montre la maison de plus en plus petite au milieu des arbres, comme étranglée par leur tronc.
« Ma vie m'appartient. »
C'est avec cet adage maternel que Nelly se décide à braver sa peur de la forêt et à s'y enfoncer. Les images la montrent courant sur les chemins, carabine dans les mains, jusqu'à une clairière qu'elle connaît bien. Et c'est là, quand elle lève les yeux vers le ciel, que la révélation se fait.
Je sentais quelque chose d'autre, partout autour. Une chose que je n'avais encore jamais remarquée. Une force douce et paisible qui m'enveloppait tout entière. C'était comme si la forêt m'enlaçait, telle une mère avec son enfant. Je me laissais aller sans résistance aucune, et le cœur infiniment calme. Ma peur m'avait complètement quittée. J'étais en paix.
Ces derniers mots s'inscrivent dans une pleine page d'une grande beauté. Au centre de l'image, le soleil perce à travers la cime des arbres. La paix intérieure habite dorénavant Nelly. Avec émerveillement, Eva et elle découvrent les richesses que procure généreusement la forêt. Petit à petit, la perception des deux sœurs de leur environnement évolue, jusqu'à s'y fondre harmonieusement. Dans la forêt est un conte d'anticipation fort, magnifiquement mis en image, qui côtoie par moments la noirceur humaine, mais finit dans la lumière. Cette BD peut aussi se lire comme un appel à changer nos modes de vie et à interroger notre place dans le cycle naturel. Il est temps de nous quitter. Aujourd'hui dans Éclat de livre, nous avons lu, aimé et flâné avec Bulle et Bob dans la forêt, un album CD de Nathalie Tual et Gilles Beloin, illustré par Ilia Green et édité par Didier Jeunesse, à découvrir dès 3 ans. Pour les enfants à partir de 8 ans, L'homme qui plantait des arbres, un texte de Jean Giono illustré par Olivier Desvaux est disponible en folio junior. Tout comme le roman en 2 tomes de Timothée de Fombelle, Toby Lolness, illustré par François Place, pour les lecteurs à partir de 10 ans. Et enfin, Dans la forêt, une bande dessinée de Lomig parue chez Sarbacane, pour les grands ados ou jeunes adultes. Vous pouvez retrouver ces livres dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est en ligne sur le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Éclat de livre, une émission préparée et présentée par Margot, avec l'amicale collaboration d'Ariane, Juliette, Mylène, Solène, Ondine et Mao pour les lectures d'extraits. Merci à toutes! La musique du générique est le morceau Maya du groupe Yapa.
Éclat de livre, c'est fini pour aujourd'hui.
Passez une très bonne semaine. On se retrouve dimanche dans 15 jours à 17h sur Radio G pour une nouvelle promenade littéraire.